Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion.
La Chine a été marquée depuis le début du mois par une nouvelle polémique suite à la disparition de la tenniswoman Peng Shuai après avoir révélé qu'un haut politicien l'avait agressée sexuellement. Malheureusement en Chine, la liberté d'expression et les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés et le sport a pour mission de redorer l'image de la nation. Le sport en Chine est donc fortement politisé. Analyse dans ce nouvel épisode de Parlons Sport.
Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion.
Déjà pour commencer, j'aimerais revenir plus précisément sur l'affaire qui secoue le monde du tennis sur ce mois de novembre. Vous en avez très certainement entendu parler, puisque l'information a fait le tour des journaux, la une de l'équipe, et j'en ai moi-même parlé dans mon podcast Sport Actu. Le 2 novembre dernier, la tenniswoman chinoise Peng Shuai a disparu. 14e mondiale en simple en 2011, numéro 1 mondiale en double en 2014, avec à son palmarès une demi-finale de l'US Open et un 16e de finale de Roland-Garros en simple, mais surtout deux victoires en Grand Chelem en double, Wimbledon en 2013 et Roland-Garros en 2014, et même victorieuse du Master WTA en 2013, à chaque fois avec la taïwanaise Ai Su Wei. Cette disparition a fait suite à une lettre qu'elle a publiée sur le réseau social Weibo, le Twitter chinois, où elle accusait Zhang Gaoli, membre du Parti communiste chinois et ancien vice-premier ministre de la République populaire de Chine, de l'avoir abusé sexuellement en 2018. Dans son message, elle a exprimé, et je la cite, « J'avais très peur. Cet après-midi-là, j'ai d'abord refusé. Je n'arrêtais pas de pleurer. En proie à la peur et au trouble, j'ai cédé et nous avons eu un rapport sexuel. » Le message a été censuré par les autorités de régulation locale après seulement 20 minutes, et bien qu'il ait été vu par de nombreuses personnes, il n'a eu que peu d'ampleur en Chine, puisque tous les mots liés, dont le mot « tennis », ont été immédiatement bannis de la plateforme. Le nom de la joueuse était toujours trouvable sur l'internet chinois, mais une recherche en lien avec l'affaire ne donne aucun résultat. En tapant le nom de la joueuse sur internet, la dernière actualité qui ressort est son dernier match de tennis qui remonte à février 2020. À la suite de ce message, le monde est resté sans nouvelles de la joueuse pendant près de 20 jours. D'après certains médias chinois, elle aurait pourtant transmis un mail au patron de la WTA en lui écrivant « Salut tout le monde, c'est Peng Shuai, l'allégation d'agression sexuelle est fausse. Je n'ai pas disparu et je ne suis pas en danger. Je me repose à la maison, merci d'avoir pris de mes nouvelles. » En plus de la syntaxe ne ressemblant pas à un message formel, le média chinois a publié l'échange sous la forme d'une capture d'écran du mail, alors qu'un curseur de clavier est visible au milieu d'un mot, ce qui rend nul la crédibilité que Peng Shuai ait envoyé ce mail. Quelques jours plus tard, les médias chinois ont publié des photos d'elle où il est possible de la voir chez elle, avec le sourire, en jouant avec son chat, mais là encore, les doutes sur la temporalité des photos étaient élevés. Les médias locaux ont également publié deux autres vidéos d'elle en public, une première au restaurant, où il est possible de la voir discuter avec son entraîneur, mais dont l'échange semble avoir été mis en scène, et une seconde où on la voit sur un tournoi de tennis junior à Pékin. Face à cette affaire, les réactions ont été nombreuses, bien que tardives. Le premier sportif à en avoir parlé, avant même la WTA, a été la joueuse française Alizée Cornet, qui a partagé le samedi 13 novembre sur ses réseaux sociaux son inquiétude quant à la disparition de la joueuse avec le hashtag « Where is Peng Shuai ?»« Où est Peng Shuai ?» Ce hashtag a été repris en masse sur les réseaux sociaux avec le soutien de nombreux joueurs et joueuses du circuit, Naomi Osaka, Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, mais aussi du monde sportif de manière générale, dont Tony Estanguet, aujourd'hui à la tête du COJOP 2024, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'affaire a même pris une tournure diplomatique avec la demande de l'Organisation des Nations Unies de prouver que la joueuse se portait bien. Cela a été réalisé le 21 novembre, où la joueuse s'est entretenue par vidéoconférence avec Thomas Bach, le président du Comité international olympique. La réunion a duré 30 minutes, et la joueuse chinoise a exprimé qu'elle était saine et sauve à son domicile à Pékin, mais qu'elle aimerait que sa vie privée soit respectée. Elle a aussi assuré qu'elle continuerait à s'impliquer dans le tennis, un sport qu'elle aimait tant. Bien que rassurant car la joueuse est encore en vie, et semble être en bonne santé, il est impossible de savoir si elle a été forcée à exprimer ces mots, si elle a subi des pressions et si son avenir n'est pas en danger. En effet, en Chine, ce n'est pas la première fois qu'une personne critiquant le pouvoir disparaît subitement avant de réapparaître quelques temps plus tard du fait des droits de l'homme qui ne sont pas toujours respectés dans le pays. Cette fois-ci, elle s'est attaquée au sport, mais la voix du sport a une portée tellement importante que la réapparition de Peng Shuai s'est faite en moins de 20 jours. La Chine a été prise à son propre jeu, car au travers des terrains de sport, elle essaye de montrer une image bienveillante de sa nation. Pour simple preuve, le nombre d'athlètes prenant part aux Jeux Olympiques. Alors que jusqu'en 2000, la délégation chinoise comportait en moyenne 260 athlètes, elle a grimpé à 407 en 2004 à Athènes. Cette hausse s'explique par la simple raison qu'en 2001, Pékin a été élue ville hôte des Jeux Olympiques pour 2008 et ce sont 639 athlètes chinois qui y ont participé. Là encore, pour recevoir les Jeux Olympiques, la Chine avait utilisé un stratagème en passant un accord secret avec Jacques Rogge, président des comités olympiques européens à l'époque, qui voulait être élu à la tête du comité international olympique. Pour cela, il devait donner son soutien à la candidature chinoise, en échange du vote des trois délégués chinois au CIO et des délégués des amis de la Chine lors de l'élection. L'accord a été concluant, puisque la Chine a obtenu les JO, et Jacques Rogge a été élu président du CIO, un poste qu'il a occupé de 2001 à 2013, avant que Thomas Barr ne le remplace. Cette forte volonté de recevoir les Jeux Olympiques s'explique par leur ambition de l'époque de montrer leur soft power au travers du sport, un phénomène parfois appelé sport power, dont l'objectif est de mettre en avant sa puissance internationale au travers du sport. Ils avaient annoncé des JO verts, des JO de haute technologie et des JO du peuple. Le concept de JO verts devait se manifester au travers de critères écologiques rigoureux et de l'engagement solennel à préserver l'environnement lors de la préparation des Jeux et de cultiver une conscience écologique en Chine sur le long terme. Le concept de JO de haute technologie a été démontré par les innovations nationales et la modernisation de Pékin et de la Chine. Et enfin, le concept de JO du peuple se matérialisait par la participation massive des Chinois dans les Jeux. En effet, selon un chercheur de l'Université du peuple chinois basé à Pékin, en février 2008, plus de 90% de la population approuvait les Jeux, soit 1,192 milliard d'habitants sur les 1,325 milliard d'habitants. Des chiffres qui sont fortement remis en question du fait de la mainmise du gouvernement sur les chiffres publiés dans les études, surtout que les investissements ont majoritairement été réalisés dans la capitale, alors que plus de 900 millions d'habitants des zones rurales étaient en situation de pauvreté. Cette volonté de montrer leur puissance n'a jamais été cachée par la Chine, puisqu'en 2001, le maire de Pékin, Liu Jingmin, avait déclaré « Les Jeux Olympiques vont nous aider à mettre en place une société plus harmonieuse et à intégrer la Chine au reste du monde. » Et pour le coup, la compétence des Chinois a été mise en avant puisqu'ils ont fini en tête du tableau des médailles, mettant fin aux 72 ans de domination des États-Unis et de l'URSS qui terminaient soit l'un, soit l'autre, en haut du classement. Pour réussir cet exploit, la Chine s'est appuyée sur son nombre d'habitants en mettant en place un système pyramidal, c'est-à-dire avoir une large base en encourageant au maximum la pratique sportive dès le plus jeune âge pour repérer les talents qui atteignent le haut de la pyramide et les accompagner pour atteindre le plus haut niveau international. Cela se voit particulièrement en gymnastique où des écoles qui sont de véritables usines à champions ont été construites. Les enfants y entrent dès le plus jeune âge, entre 4 et 8 ans, suivent des cours le matin avant d'effectuer jusqu'à 4 heures d'entraînement les après-midi. Les garçons s'entraînent sur les anneaux et au cheval d'arçon, pendant que les filles enchaînent les pirouettes et les saltos sur la poutre et la barre afin de les faire progresser et atteindre un niveau international dès le plus jeune âge. Cette excellence a parfois obligé la Chine à tricher en usurpant l'identité de leurs athlètes afin qu'ils puissent participer aux épreuves. En 2008, Ekexin, Xin, Yang Yilin et Zhang Yuyan, qui à L3 ont récolté 4 médailles sur les épreuves de gymnastique artistique, n'aurait eu que 14 ou 15 ans à l'époque, alors que la réglementation n'autorise les filles à participer aux épreuves de gymnastique artistique qu'à partir de 16 ans. Sur leur carte d'identité, elles présentaient l'âge légal pour participer, mais des archives qui ont ensuite été perdues ou effacées donnaient des informations contraires. À ce jour, aucune preuve n'a réussi à prouver cette usurpation de la délégation chinoise, mais les doutes sont importants. Ce n'est pas le seul scandale de triche que porte la Chine, puisqu'il y a eu dans les années 1980-1990 la mise en place d'un dopage d'État dont les révélations ont été faites en 2012 et en 2017 par Xue Xinjian, médecin à l'époque, qui a été écarté de la délégation lors des Jeux de Séoul en 1998, justement car elle avait refusé d'injecter une substance à un des gymnastes. D'après ses propos, plus de 10 000 athlètes auraient été concernés, car le dopage faisait partie de la préparation. Les substances telles que les hormones de croissance et les stéroïdes anabolisants étaient présentées sous la forme de médicaments nutritionnels spéciaux, et ceux qui s'y opposaient étaient mis de côté, car selon ses mots, et je la cite, « celui qui se dope sert son pays », disait-on. Ceux qui sont contre mettent le pays en danger, et ceux qui ont mis le pays en danger sont aujourd'hui en prison. Cela confirme donc les nombreux cas positifs, puisqu'entre 1988 et 1998, pas moins de 52 athlètes ont été contrôlés positifs. Une fois de plus, la Chine a redoré son image fin 2018 en annonçant voulant rendre le dopage passible de prison. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un dernier événement où la Chine a utilisé le sport dans un but politique, mais pour le coup, il a été bénéfique puisqu'il lui a permis de se réconcilier avec les États-Unis. Il s'agit de la diplomatie du ping-pong. Pour cela, il faut remonter aux années 1970. Depuis 1950, les relations entre les deux pays sont tendues. Les dirigeants ne se rencontrent pas, ils ne se parlent que peu et uniquement sur des sujets mineurs. Néanmoins, l'organisation de la 31e édition des championnats du monde de tennis de table au Japon en 1971 va être un tournant. Un soir, alors que l'ensemble de la délégation américaine est rentré à l'hôtel, Glinkovan avait décidé de prolonger l'entraînement. Or, une fois terminé, il ne reste plus qu'un seul bus à ta disposition, celui de la délégation chinoise. Il monta à bord, ce qui provoqua la stupeur des joueurs chinois et plongea le bus dans le silence le plus total. Après 10 minutes de trajet, Xuan Zedong, triple champion du monde, s'est alors levé pour aller en direction du joueur américain et discuter avec lui pour les 5 dernières minutes. À la fin du trajet, Xuan Zedong offra à Glinkovan une broderie de soie représentant les montagnes de Wangshan et Glinkovan lui offra le lendemain un t-shirt avec la fameuse inscription des Beatles « Let it be ». Cela devint le centre d'intérêt des journalistes et à la question « Aimeriez-vous visiter la Chine ?», Glinkovan répondra favorablement. La délégation américaine fut alors invitée en Chine quelques mois plus tard, une première depuis les années 1950, et fut même conviée au Palais Royal afin de rencontrer le premier ministre chinois, alors que cet accueil est habituellement réservé aux diplomates les plus prestigieux. Cela aboutit en février 1972 par la rencontre entre les deux dirigeants du pays, Richard Nixon et Mao Zedong, ce qui a permis de réconcilier les États-Unis et la Chine. Je vous le disais en début d'épisode, Pékin accueillera en février prochain les Jeux Olympiques d'hiver, et alors que la Chine souhaite faire de cet événement un sport power, de nombreux spécialistes dénoncent du sport washing, c'est-à-dire une opération de communication visant à masquer les manquements aux droits de l'homme par le sport. Alors que les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient peut-être effectuer un boycott politique en n'envoyant aucun dirigeant politique, l'affaire de la tenniswoman Peng Shuai ne risque pas d'améliorer la situation. Une chose est sûre, la politisation du sport en Chine est loin d'être terminée. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité cet épisode sur le sport politisé en Chine. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, @sport.kiliantanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.